99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 23 février, j'espère que vous avez passé une belle journée. C'est de plus en plus confortable le jour. On aime ça comme ça présentement. Moins un au cœur de Lanaudière. À l'émission aujourd'hui, on aura l'occasion de parler d'Internet par fibre optique avec Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawini, qui a quand même de bonnes nouvelles à ce niveau-là. C'est jour d'élection partielle dans Chicoutimi. Le Parti québécois qui est largement en avance selon QC 125. On va en parler avec Pierre Paquette. Mathieu Bélanger sera avec nous, notre analyste politique. Il sera question du discours sur l'état de l'Union que Donald Trump livrera demain. Également, Bernard Drainville sera là, candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Il était de passage aujourd'hui dans Lanaudière. Mais tout d'abord, la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, affirme être bien au fait des problématiques liées à l'exécuté, voire même la vétusté des trois constituants du cégep de Lanaudière, soit celle de Joliette, l'Assomption et Repentigny. François Morin a eu l'occasion de la rencontrer à Terrebonne lors de l'annonce d'un octroi de 3,5 millions de dollars pour les plans et devis du futur quartier universitaire, un projet majeur selon Martine Biron.
Oui, c'est un pas important, puis ça le met en marche, là, parce que on va faire les plans et devis. Alors, autrement dit, il entre dans le processus, et l'objectif, c'est que d'ici 2030, les étudiants puissent fouler le sol de ce nouveau campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans la région de Lanaudière.
Parce que le message a été bien compris. On connaît le taux de diplomation dans Lanaudière, qui est un des plus bas au Québec. Alors, de retenir les étudiants universitaires ici en fonction des besoins du marché du travail, ça aussi, c'est une excellente nouvelle.
Bien, il est démontré, statistique à l'appui, que les jeunes qui sont plus susceptibles d'aller à l'université si l'université est proche de chez eux. C'est difficile pour un jeune de partir loin de la maison, alors que quand ils sont dans leur région, bien, ils ont leur réseau, un réseau familial, un réseau d'amis. Alors, ça facilite les choses pour eux. Alors, ça, je pense que ça va contribuer à amener les jeunes de Lanaudière à vouloir s'instruire davantage.
Dans un autre ordre d'idée, il y a le cégep de Lanaudière qui est en demande à Joliette. On parle pratiquement de vétusté, puis on manque d'espace du côté de l'Assomption et Terrebonne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans les plans?
Oui, il y a des choses. On le sait qu'il y a une augmentation de clientèle, puis il y a différentes solutions qui peuvent être mises en place, notamment allonger les heures de cours. Là, déjà, si on prolonge d'une heure ou deux en fin de journée, bien, déjà, on dégage de l'espace. Il y a aussi d'autres projets hybrides qui peuvent être entrepris, mais on a 1 milliard de dollars par année pour nos institutions d'enseignement supérieur, pour les infrastructures. Et ça se divise en trois blocs. Il y a le fonds d'urgence, parce que ça arrive des fois qu'il y a des bris. Il y a aussi un fort montant pour le maintien des actifs et également un financement pour les nouveaux projets, comme par exemple celui dans Lanaudière ici. Alors, c'est un peu plus d'un milliard cette année qu'on va dépenser en infrastructure. C'est sûr que ça répond pas à tous les besoins, parce qu'il y en a trop de besoins. On a juste les routes, les hôpitaux, les écoles primaires, secondaires, les cégeps, les universités. Le taux de vétusté est assez élevé au Québec. Il faut rénover, il faut entretenir. Puis pendant des années, on a laissé ça à l'abandon. Alors, notre gouvernement a quand même eu pas mal d'argent. On a augmenté, moi, le PQI pour augmenter d'à peu près 1 milliard depuis qu'on est élu. Alors, il y a du travail qui se fait. On va répondre aux besoins. Et les cégeps, ils ont accès à mon ministère. Il y a 48 cégeps publics au Québec et chacun d'entre eux a accès à mon ministère et est traité équitablement et spécifiquement. On fait du cas par cas. Alors, le cas de Joliette est pris en compte et non pas, c'est pas un plan global pour tout le monde.
Parce qu'une des problématiques aussi, c'est bien de retenir les étudiants, mais il faut les loger. Est-ce que dans les plans, là, il y a des projets de résidence quelque part?
Bien, il y en a plusieurs projets de résidence. J'en annonce assez régulièrement. Est-ce que la situation de Joliette, là, je suis pas assez au courant pour vraiment pour être spécifique, mais c'est sûr qu'il y a des projets. Puis qu'on est au courant qu'il faut faire plus, mais il faut aussi travailler à changer certaines méthodes de travail pour permettre de libérer de l'espace. On peut mutualiser aussi, hein. Il y a des cégeps qui ont de l'espace, qui louent des locaux à l'université, vice versa. Alors, tu sais, il y a moyen de travailler, de mutualiser, de travailler ensemble, allonger les heures de cours, faire d'enseignement hybride. Puis, bien sûr, d'investir dans nos infrastructures.
Bon, c'était la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron. Il y avait de l'ambiance, là. C'est François Morin qui a eu l'occasion de la rencontrer à Terrebonne lors de l'annonce d'un octroi de 3,5 millions de dollars là, pour les plans et devis du futur quartier universitaire. Projet majeur, selon Madame Biron. Il est 16h11. Dans un moment, Bernard Drainville.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas-Dépanneur des Lacs, à Saint-Édouard-de-Masquinongée, Quincaillerie-Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette-Nissan est là pour vous. Pendant l'événement, maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Vu chez Super C, une photographe qui flash sur la viande puis les fruits et légumes au meilleur rapport qualité-prix. C'est pas compliqué. Leur objectif, c'est d'offrir des super bons prix sans compromis sur la qualité. Hey, c'est super, Super C. Détails et conditions au superc.ca.
Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
Lanaudière PM, politique provinciale.
Il est 16h14, le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, était de passage aujourd'hui dans Lanaudière pour présenter sa plateforme en matière d'agriculture. François Morin a eu l'occasion de discuter avec lui de ses priorités et également de cette course à la chefferie.
Qu'est-ce qu'on a à dire aux gens de Lanaudière qui ont voté massivement pour la CAQ en 2022?
Ben, on leur dit que il y a encore, alors il y a des gens qui ont été déçus, évidemment, on le voit dans les appuis, mais moi je pense que, François, il y a encore une raison d'être forte pour la CAQ, en autant qu'elle accepte de reconnaître les erreurs qu'elle a faites, qu'elle en tire les leçons et qu'elle propose des solutions. Puis moi, j'ai servi dans 2 gouvernements, dans 3 ministères. J'ai vu comment ça fonctionnait de l'intérieur et les propositions que je fais, c'est la réponse à ce que j'ai vécu, aux expériences que j'ai connues. Par exemple, quand la CAQ disait en 2018, on va réinventer l'État, le gouvernement, on va arriver avec un gouvernement qui est plus efficace, qui est moins bureaucratisé, il faut reconnaître que nous n'avons pas livré là-dessus. Puis moi, je propose que nous le fassions à la lecture de ce que moi j'ai vécu. Par exemple, je dis, si le gouvernement n'est pas capable de te donner le service pour lequel tu payes des taxes et des impôts, ben si le secteur privé est capable de te le donner, ce service-là, on ne devrait pas hésiter à se tourner vers le service sans que ça coûte vers le privé, sans que ça coûte plus cher aux citoyens. Alors, il faut commencer par le réseau public, c'est pour ça qu'on a payé. Mais si le réseau public, par exemple, le système de santé n'est pas capable de te donner l'opération pour laquelle tu attends, ben après un certain temps, on devrait dire à la personne, va te faire opérer au privé, puis on va payer. C'est l'État qui va payer avec ta carte d'assurance maladie, tu ne paieras pas plus. Récemment, j'ai dit, en fin de semaine, j'ai proposé la fin de la permanence à vie pour les fonctionnaires. Pourquoi? Ben parce que actuellement, de la manière que c'est fait, la loi nous oblige à garder quelqu'un dont le poste a été coupé. Mettons, on veut diminuer le nombre de fonctionnaires dans tel ou tel service, on n'en a plus besoin. Ben, si je coupe le poste, je suis obligé de continuer à payer la personne. Tu vois bien que ça n'a plus de bon sens. C'est peut-être une règle qui avait du sens quand on commençait, on avait peur que l'État soit utilisé à des fins partisanes, on avait une situation de taux de chômage très élevé, tout ça, on peut comprendre qu'à ce moment-là, la règle de la sécurité d'emploi à vie, la permanence à vie s'applique. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. On a plein de nouvelles technologies qui vont nous permettre d'être beaucoup plus performants. Encore faut-il, à un moment donné, être capable de se réorganiser puis de diminuer les couches de bureaucratie. Or, si on veut diminuer les couches de bureaucratie, tu coupes la couche, mais tu es obligé de continuer à garder le monde. Alors ça, c'est pas une façon efficace de fonctionner. Moi, je pense qu'il faut mettre fin donc à cette obligation légale de garder tout le monde, même quand on en a plus besoin. Je propose que la famille redevienne un projet de société au Québec. On l'a comme oublié, la famille. Pourtant, c'est quelque chose de très important pour l'avenir d'une nation qu'à un moment donné, des jeunes couples aient le goût de donner la vie puis d'élever des enfants puis de poser un geste d'amour comme ça. Ben, actuellement, c'est un paquet de jeunes couples qui en ont pas d'enfants ou qui peuvent pas en avoir, qui me disent on aimerait ça en avoir, mais on n'a pas d'argent. On aimerait ça en avoir un deuxième, ça coûte trop cher. Moi, je pense qu'il faut les aider, ces familles-là, pour recommencer à faire monter un petit peu notre taux de natalité aussi, là.
Je voudrais faire un petit croche sur le secteur de la santé. Il y a des données qui sont sorties la semaine dernière concernant la vétusté des hôpitaux. L'hôpital qu'on appelle l'hôpital régional ou l'hôpital de Joliette, qui est en fait à Saint-Charles-Borromée, a besoin de 58 millions pour être revampé et les finances publiques sont clairement pas en état, là, justement, de procéder à des travaux comme ça.
Ouais, c'est tout qu'un enjeu, les hôpitaux, là, puis tu sais, partout au Québec, on a accumulé un très, très, très grand retard, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est des retards dans certains cas, là, c'est des dizaines et des dizaines d'années pendant lesquelles on a négligé d'investir. Alors là, d'abord, les faits. Les faits sont les suivants. Depuis 2018, donc depuis que la Coalition Avenir Québec a pris le gouvernement, on a les sommes qui sont dédiées aux hôpitaux, puis aux écoles, puis aux routes, là, on l'a augmenté de 100 à 164 milliards. Donc, on ne peut pas dire là, qu'on s'est assis sur nos mains et qu'on n'a rien fait. Mais malgré le fait qu'on l'a augmenté autant, le rattrapage est tellement grand, il y a tellement eu de négligence que, tu sais, je veux dire, il faut continuer, là, François, il faut continuer à investir. Là, il va y avoir un budget québécois qui va être déposé dans les, mettons, prochaines semaines, prochains mois tout au plus. Et puis, il faudra voir à ce moment-là si on ajoute des sommes pour les infrastructures publiques, comme les hôpitaux. Moi, je suis confiant qu'on va pouvoir le faire. Il faut faire attention en même temps. Tu sais, la capacité de payer des citoyens n'est pas infinie, puis il faut toujours surveiller la situation financière, tu sais, faut à un moment donné, on est en situation de déficit, va falloir retourner à l'équilibre budgétaire. Là. On peut pas constamment pelleter des déficits dans la cour de nos enfants. Fait que, à un moment donné, il va falloir amener le budget à l'équilibre. Chose certaine, faut continuer à investir dans la rénovation de nos hôpitaux, ben de nos infrastructures publiques en général, parce que les écoles aussi ont besoin de beaucoup d'amour. Puis on sait que au niveau l'infrastructure routière, par moment, on se promène, puis il m'a dit une affaire, je me promène, je fais le tour du Québec, moi, là, puis je te dis que par bout, ça brasse en maudit, tu sais, nos hôpitaux.
En terminant, M. Drainville, les membres de la CAQ doivent sûrement avoir hâte à autre chose que du crêpage de chignon sur la place publique entre vous et Mme Fréchette.
Ben d'abord, il faudrait qu'il y ait un débat d'idées, là. Moi, je mets des idées, je vous en ai parlé, là. J'ai mis des idées. Aujourd'hui, là, je rends public ma politique là, pour l'agriculture. Tu sais, les agriculteurs, c'est eux qui nous nourrissent. Il n'y a rien de plus important là, que notre capacité de se nourrir comme nation. Là. Fait que moi, aujourd'hui, j'ai annoncé qu'on allait donner un coup de main aux agriculteurs, qu'on allait rembourser la sur le carbone, la tarification carbone, qu'on allait alléger la réglementation. Puis moi, j'ai pris l'engagement. Je sais qu'il y en a des gens qui nous écoutent qui sont dans le domaine de l'agriculture. Moi, je prends l'engagement d'être le champion de la gestion de l'offre. C'est pas vrai que nos agriculteurs vont être sacrifiés sur l'autel de Trump. Alors, je mets de l'avant des idées sur, je vous en ai parlé, la bureaucratie, l'efficacité de l'État, la santé, l'immigration. J'ai proposé un droit acquis.
Alors, vivement les prochains débats, les deux débats officiels.
Ben c'est ça. Dans un débat officiel, on va pouvoir débattre de ça. Mais là, il faudrait que Mme Fréchette mette de l'avant des idées. Là. Pour le moment, là, elle a mis de l'avant une idée. C'est tout. Le reste, je pense qu'elle se fie un petit peu sur les sondages. C'est correct. Elle a le droit de se fier ses sondages. Mais moi, je pense que c'est pas les sondages qui vont décider. C'est le monde qui nous écoute. Le monde qui nous écoute, là, s'ils prennent leur carte et ils payent 15$, ben ils vont avoir le droit de vote. Fait que moi, je pense que c'est les gens, c'est un vote à la fois. Monsieur, madame, tout le monde, le citoyen, là, comment je l'ai appelé, là? Le vrai monde. C'est le vrai monde qui nous écoute, François, qui va faire la différence. Pas les sondages.
François Morin, qui s'est entretenu avec le candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Bernard Drainville, là, qui était de passage dans Lanaudière aujourd'hui. Il est 16h22. L'influence de Trump se fait sentir même sur les écoliers québécois et les propos et gestes misogynes, homophobes et transphobes sont en hausse, raconte-t-on, là, dans les écoles du Québec. C'est ce qui ressort là, d'une recherche qui a été pilotée par un politologue pour le compte de la Fédération autonome de l'enseignement. Et selon l'auteur Francis Dupuis-Déry, ces comportements incluent des propos sexistes ou antiféministes, des attaques verbales contre la diversité sexuelle et de genre et aussi des gestes à caractère haineux, comme des saluts nazis. Bref, pour les étudiants, les écoliers, ben, c'est le reflet de ce qu'on vit aux États-Unis, là, et puis on s'exprime de cette façon-là, c'est inquiétant. Ils sont pour la plupart du temps exprimés ouvertement, même par les jeunes, et posés en groupe. On écoute là-dessus l'auteur et politologue Francis Dupuis-Déry.
Il s'agit d'en avoir un, deux ou trois dans une classe pour que ça brise l'ambiance, pour que des élèves ne veulent plus s'exprimer publiquement, parce qu'en fait, il y a des élèves qui disent, parce que si je me fais entendre, si je m'oppose, si je dis quelque chose, je risque d'être intimidé, en fait, dans les semaines et les mois qui vont suivre. Donc, comme on dit, ils achètent la paix, mais en fait, c'est malheureux parce que ça brise la dynamique, ça nuit évidemment à l'environnement pédagogique.
Puis on sait aussi que ces gestes sont plus souvent posés par des garçons qui sont issus du milieu sportif, là, selon cette recherche. Très inquiétant. Il est 16h23.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ben, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est assez facile, à peine un peu nombreux, entre du tricentenaire et le boulevard Henri Bourassa. La traversée vers la rive nord est facile. 40 Est, Repentigny, dans l'ensemble, ça va très bien actuellement. On constate vraiment que c'est semaine de relâche au centre de services scolaires des Samars. Le pont Le Gardeur par Notre-Dame ou encore par Sherbrooke, c'est bien facile. 25 Nord, secteur de Laval, c'est facile. Terrebonne également. Mascouche aussi, 25 Nord, on circule sans problème. Pont Sophie-Masson, facile pour franchir la rivière des Belles-Îles. Et finalement, on roule sans problème sur la 640 dans les deux directions entre la 25 et la 40. Les nouvelles dans un moment avec Pierre Jubinville.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement 398 $ plus taxes par mois sans aucun compte initial. Chez Joliette-Nissan.
cet hiver. Vivez pleinement le grand air à la pourvoirie Auberge La Barrière à Saint-Émilie. Découvrez le village de pêche sur glace avec 25 cabanes chauffées et aménagées pour votre confort. Amusez-vous en famille avec les glissades, la mini-ferme et partez à l'aventure sur le sentier de raquettes. Et après cette journée bien remplie, réchauffez-vous autour d'un bon repas dans le restaurant convivial où ambiance chaleureuse vous attend. La pourvoirie Auberge La Barrière à Saint-Émilie, c'est aussi votre relais motoneige et grande nouveauté cette année, relais pour quad. La pourvoirie Auberge La Barrière, une belle façon de vivre l'hiver. Et pour être certain de ne rien manquer, suivez La Barrière sur Facebook.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler
qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
CFNJ. Avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
L'actualité de ce lundi 23 février en manchette. Tommy Carranza sur le point de connaître le sort que lui réserve la justice. 26 000 Canadiens sont toujours au Mexique au lendemain des événements violents qui ont secoué le pays. Et Bernard Drainville veut devenir le champion de la gestion de l'offre. Bonjour Pierre Jubinville.
Bonjour Claude.
Tout d'abord, Tony Carranza Ladry, qui est toujours en attente de sa sentence.
Ouais, les avocats de la Couronne et de la Défense ont livré leur plaidoirie aujourd'hui sur la peine à imposer à cet individu qui a été reconnu coupable récemment du meurtre d'un bambin dans une garderie de l'Assomption en décembre 2023. On écoute François Morin.
La Couronne propose une peine de 15 ans avant une admissibilité à une libération conditionnelle. Elle estime que cette peine doit être dissuasive et proportionnelle à la gravité du crime. Elle ajoute que Tommy Carranza-Ladry connaissait ses traits de personnalité, qu'il n'a pris aucune mesure pour se débarrasser de ses problèmes de consommation et qu'il s'est présenté au travail dans un état qui n'était pas maximal. Outre la détention, la Couronne demande la fourniture d'une preuve d'ADN, l'interdiction de posséder des armes à perpétuité et celle de ne pas communiquer avec les proches de la victime. De son côté, la Défense plaide pour une peine de 12 ans. Elle estime que l'état mental de l'accusé peut être considéré comme un facteur atténuant alors qu'en crise, il s'en est pris à la jeune victime sur un court laps de temps sans planification. Elle a rappelé que l'accusé n'a aucun antécédent judiciaire, qu'il a témoigné franchement à son procès et qu'avant les événements, il était un actif pour la société. La médiatisation de l'affaire aurait aussi eu un effet de stigmatisation sur le long terme. Le magistrat prend la cause en délibéré et rendra la sentence le 9 mars. François Morin, CFNJ Nouvelles.
Scène internationale, Pierre, la situation demeure instable au Mexique.
Oui, et la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, s'attend à un retour quand même à la normale dans les prochains jours. Elle s'est entretenue ce matin avec son homologue mexicain. Mais en attendant, Mme Anand demande aux résidents canadiens qui sont présents là-bas, on en compte 26 000, de suivre les directives des autorités locales.
Les Canadiens doivent également suivre les communications des compagnies aériennes pour connaître l'état de leur vol. La sécurité des Canadiens à l'étranger reste notre priorité absolue.
Et ça devient une habitude de Donald Trump, Pierre, qui menace maintenant le monde entier de nouveaux tarifs.
Oui, c'est vraiment le monde entier cette fois-ci. il n'est pas content, le monsieur. La rebuffade qui a été servie par la Cour suprême vendredi affaiblit sa stratégie au sujet de l'établissement de certains tarifs douaniers. Dans un jugement de 6-3, Donald Trump ne peut invoquer l'urgence nationale pour imposer des tarifs douaniers, mais il avait une autre carte dans sa manche et il va en imposer d'autres de 15 %. On écoute Mathieu Bélanger, notre analyste.
Cette fois-ci, en fonction de la loi sur le commerce, donc il peut mettre des tarifs, mais juste pour une durée de 150 jours. Après ça, ça doit passer par le Congrès quand même. Donc, on voit que la stratégie de Donald Trump est beaucoup plus fragile que ce que c'était avant. Évidemment, il pourra tenter peut-être de prolonger ça de différentes façons jusqu'à temps qu'une décision des tribunaux qui arrive éventuellement, si jamais le se mettait dans une situation d'illégalité.
On aura l'occasion d'entendre plus de détails là-dessus avec Mathieu Bélanger dans les prochaines minutes, puisque François Morin lui a parlé un peu plus tôt. Et maintenant, Bernard Drinville était dans la région de la Naudière aujourd'hui pour parler agriculture.
Oui, le candidat à la direction de la CAQ veut alléger la réglementation, rembourser la taxe carbone et surtout, il se désigne comme le champion de la gestion de l'offre. Pas question pour lui de laisser Trump éliminer cette disposition du commerce entre les deux pays. Bernard Drinville mise sur la tenue, par ailleurs, de deux débats pour se démarquer de son adversaire, Christine Fréchette.
Bien, c'est ça. Un débat officiel, on va pouvoir débattre de ça. Mais là, il faudrait que Mme Fréchette mette de l'avant des idées. Là. Pour le moment, là, elle a mis de l'avant une idée. C'est tout. Le reste, je pense qu'elle se fie un petit peu sur les sondages. C'est correct. Elle a le droit de se fier ses sondages. Mais moi, je pense que c'est pas les sondages qui vont décider. C'est le monde qui nous écoute. Le monde qui nous écoute, là, s'ils prennent leur carte puis ils payent 15 $, ben, ils vont avoir le droit de vote. Fait que moi, je pense que c'est les gens, c'est un vote à la fois. Monsieur et madame tout le monde, le citoyen, là.
Monsieur, madame, tout le monde, on l'a entendu souvent, celle-là, par le chef conservateur fédéral.
Une autre fléchette.
Oui, oui. Il y a le nouveau chef libéral, Charles Milliard, qui était de passage aujourd'hui devant la Chambre de commerce des Moulins.
Oui, à Terrebonne, c'était son premier discours depuis qu'il a été désigné. Il a choisi la Chambre de commerce comme auditoire, car pour lui, c'est grâce à l'économie qu'on produira de la richesse au Québec. Il a parlé de la force des PME et de la nécessité d'alléger leur fardeau fiscal.
Ben, premièrement, je viens de ce milieu-là. Je viens du milieu entrepreneurial, du milieu des affaires. Et c'est à la qualité des gens qui vont m'entourer qu'on va pouvoir laisser les Québécois juger de ça. Mais moi, vous avez remarqué dans un discours de, je sais pas, 30 minutes, j'ai parlé d'économie pendant probablement 24 minutes. Alors, pour moi, c'est au cœur de ça. La création de la richesse au Québec, ça passe par nos entrepreneurs puis par davantage de projets économiques au Québec.
Il deviendra samedi prochain le premier candidat officiel du parti dans Offord.
Ah, c'est Harford, finalement, qui va se présenter.
Ouais, oui, il nous annonce cette chose.
Dans les cantons de l'Est.
Ouais.
Les commerces pourront être ouverts plus longtemps la fin de semaine.
Oui, et les commerces vont pouvoir allonger leurs heures d'ouverture jusqu'à 21h la fin de semaine dès le 11 mars, de 6h à 21h, en autant qu'ils trouvent de la main-d'œuvre.
Mais c'est ça le problème. Hein?
Cette mesure s'appliquera sur une base volontaire. Elle vise à donner plus de flexibilité aux commerçants. Samuel Poulain est ministre délégué à l'économie.
Moi, je suis un gars de libre marché, de libre entreprise, et on est un des seuls endroits au Canada et en Amérique du Nord à légiférer encore sur les heures d'ouverture. Alors, je pense que de le permettre, de donner le tout de façon optionnelle, ça peut être également bien pour l'entreprise et pour notre économie locale également.
Et finalement, Nouveau Monde Graphite qui ne craint pas une pénurie d'eau à Saint-Michel-des-Saints.
Non, on faut rappeler, Claude, que le Conseil de ville a fait savoir la semaine dernière qu'il adoptera un règlement qui mettra un frein quand même à tout développement résidentiel et commercial parce que les installations actuelles ne peuvent produire davantage d'eau. Nouveau Monde Graphite devra loger de nouveaux employés alors que d'ici quelques mois vont commencer les travaux de construction des installations en vue du démarrage de la production de la mine vers 2029. Julie Paquette est vice-présidente communication chez Nouveau Monde Graphite.
À court terme, pour la phase de construction, on a un plan en place là, pour pouvoir mettre à profit les capacités de location court terme qui sont disponibles dans la région. À moyen terme, on cherche à être capable d'avoir du développement résidentiel dans la région pour attirer les familles. Puis on sait qu'il y a des promoteurs là, qui sont déjà bien alignés pour des projets résidentiels à l'extérieur de ce secteur-là. Là. On parle aussi avec, par exemple, la municipalité de Saint-Zénon, les...
Ben voilà, c'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci Pierre Jubinville.
Bonne soirée, Claude.
Très bonne soirée. Il est 16h35.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
Lanaudière PM. Politique internationale.
Oui, on en parlait il y a quelques minutes. La rebuffade servie par la Cour suprême à Donald Trump vendredi affaiblit sa stratégie là, au sujet de l'établissement là, de certains tarifs douaniers. François Morin qui aborde avec notre analyste politique Mathieu Bélanger ce sujet ainsi que le discours sur l'état de l'Union que va devoir livrer demain Donald Trump.
La Cour suprême des États-Unis a effectivement invalidé vendredi une grosse partie de la stratégie économique, politique de Donald Trump, donc l'utilisation des tarifs en vertu d'une loi, la loi des mesures d'urgence au niveau économique, lorsqu'on constate qu'il y a une situation d'urgence, le président, on a certains, la loi lui accorde certains pouvoirs au président, la Cour suprême a déterminé, ben là, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et pour pouvoir mettre des tarifs en vertu de cette loi-là, bien, il faut passer par le Congrès. On se rappelle qu'aux États-Unis, contrairement à chez nous, il y a une séparation des pouvoirs et c'est pas le président qui fait ce qu'il veut dans bien des mesures, bien des contextes, notamment et particulièrement la question des impôts et des taxes, ça passe par le Congrès. Et donc, le président ne peut pas faire ça. Et c'est une décision importante parce que cette fois-ci, contrairement à plusieurs autres décisions connues au courant de la dernière année ou même dans le premier mandat de Donald Trump, c'est une décision sur le fond de la plus haute instance. Donc, c'est une décision sans appel et finale. C'est pas une injonction, une décision temporaire. C'est une décision finale. Par contre, il y a d'autres stratégies qui demeurent possibles pour Donald Trump, mais plus fragiles. Et c'est ce que Donald Trump a déjà commencé à utiliser depuis vendredi. Vendredi en annonçant des tarifs douaniers partout de 10% et samedi annonçant sur les réseaux sociaux que ça serait plutôt monté de 15%. Cette fois-ci, par fonction de la loi sur le commerce. Donc, il peut mettre des tarifs, mais par contre, juste pour une durée de 150 jours. Après ça, ça doit passer par le Congrès quand même. Donc, on voit que la stratégie de Donald Trump est beaucoup plus fragile que ce que c'était avant. Évidemment, il pourra tenter peut-être de prolonger ça de différentes façons jusqu'à temps qu'une décision des tribunaux qui arrive éventuellement, si jamais le il se mettait dans une situation d'illégalité. Donc, ça pourrait donner du sens supplémentaire. Cela dit, ben ça le met dans une situation de fragilité, justement, surtout dans le contexte pour négocier avec les autres pays, le Canada au premier chef, en ce qui me concerne, et dans une situation de fragilité par rapport à demain, puisque demain, il y aura le discours sur l'état de l'Union, qui est là une fois par année.
Bon, j'y arrivais justement à ce fameux discours de l'Union. On connaît Donald Trump, c'est pas son premier. Sa vision des choses sera de dire aux Américains, tout va très bien.
C'est toujours le discours de Donald Trump que tout était, puis le déjà dit dans, explicitement comme ça, sous Joe Biden, si le pays était au pire de son histoire et les États-Unis sont meilleurs dans leur histoire, ce sont ses paroles. C'est clair, c'est comme ça qu'on va le présenter, et c'est un peu logique aussi, lorsqu'on est en année électorale, de tenter de montrer le pays et surtout le parti sous le meilleur jour possible. Il y a des sujets qui sont très attendus pour demain. La question des tarifs, évidemment, inévitablement même, dans ce contexte-là, on veut savoir quelle va être la stratégie de Donald Trump. D'autres sujets aussi au niveau du coût de la vie, parce que c'est ça qui fait mal à Donald Trump énormément aux États-Unis. Il avait fait de grandes promesses concernant le coût de la vie et ça ne se réalise pas encore. Certains diront peut-être entre autres à cause des tarifs, parce que les tarifs, ben qui les paye éventuellement, ce sont les consommateurs américains. Mais d'autres sujets aussi au niveau international, la situation est excessivement tendue par rapport à l'Iran. Donc, on voudra voir ce qu'il a à dire là-dessus. Est-ce qu'il va parler du Groenland? Est-ce qu'il va revenir à la charge là-dessus ou est-ce que cette histoire-là est enterrée? Ben, on le saura peut-être un peu plus demain. Les relations avec le Canada, le Mexique, on est en évaluation pour éventuellement renégocier la CEUM. Donc, notre accord, là, Canada, États-Unis, Mexique, de libre-échange. Mais ça aussi, on voudra savoir s'il y a des choses à dire.
Et si on poursuit un petit peu l'échange concernant le discours de l'Union, il peut pas passer à côté des conflits armés dans lesquels les États-Unis sont seraient potentiellement impliqués, notamment avec l'Iran et la guerre en Ukraine qui n'en finit plus.
L'Iran, certainement, il y a des grosses menaces contre l'Iran présentement. Il y a un délai de quelques jours qui avait été donné par Donald Trump pour arriver à un accord avec l'Iran. Reste à voir ce qui va arriver. C'est déjà arrivé par le passé. On sait que Donald Trump donne des ultimatums qui arrivent sans effet, notamment dans le contexte justement de la guerre avec la Russie et l'Ukraine. C'est l'autre dossier qu'on va voir s'il a quelque chose à dire. Dans ces dossiers-là, par contre, ce sont des dossiers dans lesquels les États-Unis ne paraissent pas nécessairement très bien, puisque la guerre en Ukraine devait prendre fin au plus tard, au premier jour de la présidence de Trump, voire avant. C'est ce qu'il promettait lors de la campagne électorale. Ben, ça a encore lieu aujourd'hui et on n'est pas proche d'une fin imminente. Donc, il y a peu de choses à gagner de Donald Trump de parler de cette guerre-là. Mais peut-être qu'il voudra le faire quand même, continuer à faire de la pression sur la Russie, sur l'Ukraine. Parfois, il met même plus de pression, du moins publiquement, sur l'Ukraine. Il y a encore des négociations qui ont lieu entre justement les deux belligérants, l'Ukraine et la Russie, mais on semble pas être capable d'y arriver. Il y a des tensions importantes, on le sait évidemment, d'Israël, dans la relation avec la Palestine. Là aussi, est-ce que Donald Trump va dire des choses? Il risque de mettre de l'avant son Conseil de la paix qu'il vient de créer, une organisation internationale qui au départ avait été pensée essentiellement pour faciliter certaines transitions en Palestine suite à la guerre avec Israël, mais que là, qu'il y a une visée un peu plus internationale, voire de faire la compétition à l'ONU. Donc, là aussi, on pourra voir s'il a dit quelque chose là-dessus. Généralement, il faut garder en tête, par contre, que nous, Canadiens et personnes non-américaines, on écoute beaucoup le discours sur l'État de l'Union pour savoir ce qu'il va dire sur la politique internationale. Mais pour les Américains, c'est l'inverse. Surtout en année électorale, comme ce l'est cette année avec les élections de mi-mandat, les Américains veulent savoir qu'est-ce que Donald Trump va dire sur la politique locale.
Voilà, c'était notre analyste Mathieu Bélanger, à qui François Morin a parlé un petit peu plus tôt. Là, ce qui sera à surveiller, évidemment, demain, là, c'est le discours sur l'état de l'Union que va livrer Donald Trump. Il est 16h42 dans un moment. Pierre Paquette, c'est d'ailleurs jour d'élection partielle dans Chicoutimi. Aujourd'hui, on va en parler avec Pierre.
Cet hiver, vivez pleinement le grand air à la pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie. Découvrez le village de pêche sur glace avec 25 cabanes chauffées et aménagées pour votre confort. Amusez-vous en famille avec les glissades, la mini-ferme et partez à l'aventure sur le sentier de raquettes. Et après cette journée bien remplie, réchauffez-vous autour d'un bon repas dans le restaurant convivial où ambiance chaleureuse vous attend. La pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie, c'est aussi votre relais motoneige et grande nouveauté cette année, relais pour Quad, la pourvoirie Auberge La Barrière, une belle façon de vivre l'hiver. Et pour être certain de ne rien manquer, suivez La Barrière sur Facebook.
L'échappée sur le pouce, c'est ta solution de prêt-à-manger. Savoureux et abordable, on t'offre le meilleur des deux mondes. Un repas à ton goût et une économie de temps. Repas fraîcheur, prêt à chauffer ou à congeler, l'échappée sur le pouce cuisine pour toi avec des ingrédients locaux et frais. Tous les détails à l'échappeesurlepouce.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Philgo, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada.
Épicerie Forêt, dépanneur voisin Joliette et pharmacie Nancy Gaudreau à Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couche-Tard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonnie-Soir-Chelle, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor, à Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonnie-Soir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe, et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonnie-Soir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Vu chez Super C, une photographe qui flash sur la viande puis les fruits et légumes au meilleur rapport qualité-prix. C'est pas compliqué. Leur objectif, c'est d'offrir des super bons prix sans compromis sur la qualité. Hey, c'est super, Super C. Détails et conditions au superc.ca.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bon lundi, Pierre.
Bonjour.
C'est jour d'élection partielle dans Chicoutimi. D'après les chiffres qu'on peut voir chez QC 125, là, ça pourrait être quand même assez facile pour le Parti québécois.
Oui, moi, j'ai pas de doute. Là, QC 125 prédit pour l'élection générale 47% pour le PQ. Donc, c'est sûr que la victoire et le deuxième parti qui suit, c'est le Parti conservateur du
Québec. Oui, oui, là on parle de Chicoutimi, Chicoutimi. On donne 47 au PQ, 19 aux conservateurs, 13 à la CAQ. Bon, quand même, ça serait la quatrième victoire en partiel du Parti québécois. Oui.
Moi, j'ai aucun doute qu'ils vont gagner. La question, c'est de savoir avec quel pourcentage, parce que justement, si on prévoyait ces 47% à l'élection générale, mais là, on est dans une élection partielle et on sait qu'à l'élection partielle, il y a moins de personnes qui se déplacent pour aller voter. Et ce qu'on nous disait aujourd'hui dans les journaux, c'est qu'il y a seulement 11% de vote par anticipation, alors que dans Arthabasca, par exemple, il y avait eu 26% de vote pour l'élection partielle, 26% des gens avaient voté par anticipation, et à l'élection générale, pour Chicoutimi, c'était 24%. Donc, à 11%, on est vraiment en dessous du niveau de vote par anticipation qu'on voit habituellement dans des élections au Québec. Alors, quel effet ça va avoir? C'est sûr, ça empêchera pas le PQ de gagner le comté, ouais, la circonscription.
Mais ça peut
mélanger les cartes.
S'il y a un si faible taux de participation, est-ce que c'est dû au fait qu'il y a des générales là, qui s'en viennent bientôt?
Il y a ça, mais je pense que aussi tout le monde prévoit que le PQ va gagner, puis c'est un peu ça leur problème, c'est que sont tellement sûrs de gagner que c'est pas sûr que les gens qui avaient l'intention de voter pour eux vont se déplacer pour une élection partielle. Peut-être dans une élection générale, ce serait autre chose. En tout cas, il faut souhaiter que les gens aillent voter, là, peu importe pour qui. Mais
donc, le travail aujourd'hui, là, c'est de faire pour le Parti québécois, c'est de faire sortir le vote aux autres, mais aussi pour les autres partis, là.
Oui, oui, mais il doit y avoir des maisons téléphoniques partout dans Chicoutimi. Ça doit appeler sans arrêt. Puis quand même, les bureaux de scrutin ferment assez tard ce soir, ça fait que il y a possibilité jusqu'à la dernière minute là, d'essayer de convaincre les gens d'aller voter. Mais ça va être une bonne indication de la ferveur envers le Parti québécois. Et j'ai hâte de voir ça. Et aussi, évidemment, l'autre aspect qui est très intéressant dans cette élection-là, c'est la performance du Parti conservateur du Québec. Il va se revigorer Éric Duhaime.
Ce ne serait pas étonnant que le Parti conservateur arrive deuxième, là, mais quand même loin derrière le Parti québécois. Il faut rappeler qu'il y a élection partielle en raison du départ de l'ex-ministre régional André Laforêt, là, qui avait démissionné pour se lancer à la course à la mairie de Saguenay, mais elle avait perdu la mairie, là.
Ben exactement. Mais souvent, c'est des choses qui arrivent. C'est pas des vases communicants. Là. C'est pas parce que tu as bien performé dans une élection provinciale que tu vas nécessairement bien performer dans une élection fédérale ou une élection municipale. Mais là, ça s'est vérifié. Il y a quand même 7 candidats aussi, donc il risque d'avoir une certaine dispersion du vote. Là. Encore une fois, ceux qui vont voter aux élections les élections partielles, ce sont pas nécessairement les mêmes personnes qui vont aller voter pour des élections générales. Il y a plus de monde, évidemment, qui se déplace pour des élections générales. Alors, ça peut brouiller les cartes un peu pour le Parti québécois. Et donc, ça va être assez intéressant de suivre les résultats. Si donc, ça se concrétisait là, autour de 40, 45% pour le PQ. Je pense que ce serait une bonne nouvelle pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
Donc, à surveiller ce soir, Marie-Carline Laflamme pour le Parti québécois, Catherine Morissette pour le Parti conservateur et Francis Tremblay pour la coalition Avenir Québec. J'ai l'impression que ça va se présenter de cette façon-là, c'est-à-dire le PQ en premier, en deuxième les conservateurs et en troisième la CAQ. C'est mon impression, du moins.
Mais moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une députée supplémentaire, une femme députée supplémentaire avec le Parti québécois,
oui,
qui en a bien besoin.
Oui, oui, oui. Mais on a besoin davantage de représentation féminine, c'est certain, à l'Assemblée nationale. Et puis, tiens, on
ça
va aller...
On va faire la transition sur notre deuxième sujet.
Oui, on va parler de Québec solidaire. Ça semble de plus en plus clair, et c'est écrit dans le ciel, qu'Alexandre Boulris va se présenter pour Québec solidaire dans Rosemont-la-Petite-Patrie.
D'Angoin, là.
C'est d'Angoin, pardon, oui.
C'était trompé. Oui, oui, c'est d'Angoin. Et puis, oui, oui, moi, je pense que c'est évident. Là, il a dit qu'il ne l'annoncerait pas avant le congrès au leadership du NPD. Je pense que c'est tout simplement par déférence pour le parti qu'il a représenté depuis 2011. Alors, il ne veut pas brouiller les cartes.
Justement, c'est parce que je disais Rosemont, la petite patrie, parce que c'est la circonscription qui représente là, depuis une quinzaine d'années pour le NPD. Là.
Ben oui, exactement. Donc, moi, j'ai pas de doute. Là. Je l'ai entendu cet après-midi, puis il va se présenter. Il attend juste que le 29 mars soit passé pour annoncer l'affaire.
En point de presse, Alexandre Boulris disait que c'est une possibilité, sérieuse. Il dit que ça fait 15 ans qu'il est député au fédéral. Peut-être qu'il y aura autre chose que la politique fédérale. Alors, c'est pour ça que c'est écrit dans le ciel, et d'autant plus qu'en fin de semaine, les délégués de Québec solidaire ont voté en faveur d'une exception à leurs propres règles pour permettre à un homme indépendantiste de se présenter.
Oui, bien exactement. Ça, c'est le problème avec les règles, c'est que il faut des exceptions. Alors, comme disait Mme Duval, l'exception qui confirme la règle, mais pour le moment, on n'a pas eu de règle, on a eu juste les exceptions.
Ouais, ouais.
Alors, ils ont décidé, le Conseil national du Québec solidaire a décidé en fin de semaine de faire une exception et de permettre à un homme de se présenter dans Gouin, alors que ça devait être soit une femme, soit quelqu'un qui est non-binaire.
Ouais.
Et moi, je trouve ça assez représentatif du fait que toutes ces règles-là sont facilement...
On peut les transgresser facilement.
Ouais. Exactement.
Mais
je suis d'accord avec eux, c'est-à-dire que pourquoi se priver de quelqu'un qui a quand même une expérience qui est bien vue par les gens de la circonscription?
Oui, clairement, Alexandre Boulris pourrait sauver cette circonscription-là pour Québec solidaire. Là.
Oui, parce qu'actuellement, en tout cas, ce qu'on voit, là, c'est que c'est plutôt les libéraux qui sont en avance dans cette circonscription-là. Alors, c'est assez... je pense que Québec solidaire, au plan fédéral, là, je voulais dire au plan fédéral,
oui.
C'est les libéraux qui sont en avance. Donc, d'une certaine façon, Alexandre Boulris, oui, il va rendre service à Québec solidaire, mais il va aussi se permettre de rester actif sur la scène politique.
Et se rendre service à lui-même, oui.
Oui, c'est ça. C'est gagnant-gagnant.
Oui.
Mais encore une fois, on est obligé de transgresser des règles.
Merci, Pierre Paquette.
Merci. À mercredi. Bye.
Lanaudière PM, communication.
Après avoir été longtemps le parent pauvre au Québec en termes d'accessibilité au signal Internet de qualité, la Matawinie là, est maintenant branchée à 90%. La MRC, par connexion Matawinie, a signé une entente d'exclusivité avec la firme Cooptel qui va lui verser des redevances à chaque abonnement que les résidents vont prendre avec cette firme. Michel Arnois s'est entretenu avec Isabelle Perrault, la préfète de la MRC de Matawinie.
Isabelle Perrault, on vous retrouve avec grand bonheur en ce dimanche.
Oui, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, Michel. Une fois par mois, on dirait que c'est presque pas assez.
C'est vous qui le dites et j'en suis entièrement d'accord. Vous allez nous parler aujourd'hui de Connexion Matawinie, Faites-moi un portrait de la situation.
Bien, en fait, Connexion Matawini, c'est un projet de la Matawini de fibre optique, de construction d'un réseau de fibre optique pour la Matawini. C'est le plus gros réseau de fibre optique au Québec actuellement. Donc, c'est la dernière technologie là, pour l'accessibilité Internet.
Il y avait des besoins criants en Matawini. On était peut-être un peu les parents pauvres, non?
Tout à fait, mais il faut reculer. Là, le projet s'est réfléchi là, en 2016-17 où les grands télécommunicateurs à cette époque-là avaient aucun intérêt à venir desservir le territoire de la MRC Matawini. Mais quand je dis aucun, c'est vraiment aucun. Donc, les élus de cette époque-là se sont dit, ben, ils ont fait toutes sortes de scénarios, là. On pourrait, par exemple, s'assurer que le périmètre urbain soit exclusif parce que c'est là qu'il y a la masse dans les villages, là. Mais pour s'assurer que les rangs, les tours de lac, tout ça soit desservi. Mais il y avait vraiment, là, aucun intérêt. Donc, ils se sont dit, OK, ben, on va s'organiser, puis on va déployer on va construire le réseau, l'autoroute, là, c'est vraiment le parallèle que je préfère, c'est de construire une autoroute, parfois dans des endroits où il n'y avait même pas de chemin. Okay? Donc, on va construire l'autoroute qui est là pour s'assurer que tous nos petits coins et raccoins de la MRC puissent être desservis et on va s'associer à un télécommunicateur par la suite pour pouvoir offrir le service à la maison.
C'est ça le grand défi dans nos régions, c'est que c'est pas payant ou c'est pas rentable souvent pour les grandes entreprises de dérouler de la fibre pour un client qui est autour d'un lac, là.
Tout à fait. Donc, c'est ce qui ont été mis sur pied, donc un programme pour construire le réseau qui est actuellement construit à 90 %. Il y a des municipalités que c'est moins que ça, là, mais il y a des municipalités que c'est à 100 %. Donc, en gros, le réseau de fibre optique actuellement, il est construit à 90 %. Et on s'est associé avec la firme Cooptel qui, eux, donnent le service, là, du poteau, si vous voulez, jusqu'à la maison.
Est-ce qu'ils sont exclusifs?
Oui, ils sont exclusifs et le règlement d'emprunt, l'argent qu'on a emprunté pour faire cette construction-là, ben, la redevance que Cooptel donne sur chacun des abonnements fait en sorte qu'on rentabilise la construction, on paie, si vous voulez, le règlement d'emprunt avec les redevances que Cooptel nous donne. D'où l'importance pour les citoyens de la Matawini qui ont accès à ce réseau Connexion Matawini de fibre optique, ben d'adhérer là, et c'est des prix totalement concurrentiels, ça coûte pas plus cher qu'avec un autre télécommunicateur.
Donc tant qu'à choisir, choisissons quelqu'un qui permet de payer notre infrastructure.
Exactement. Donc, vous allez voir dans les prochaines semaines là, une volonté de faire connaître ce service-là, de s'assurer que les citoyens pour qui c'est disponible puissent adhérer. Et c'est vraiment une coopérative Cooptel. Donc, c'est vraiment, ça rejoint nos valeurs communautaires du projet qui est communautaire parce que c'est chacune des municipalités par le compte de taxes qui paie cette construction de réseau-là. Donc, à s'abonnant à ce réseau-là, ben vous venez aider à financer la construction de notre réseau, le réseau Connexion Matawini.
Donc, vous en êtes vraiment là à une étape où vous voulez là, promouvoir là, ce service-là.
Tout à fait. Ce qu'on invite les gens, c'est à communiquer avec Cooptel, de prendre rendez-vous pour se faire brancher. Et nous, le 10 % de construction qui reste à faire, ben, on s'en va là, en appel d'offres au printemps pour pouvoir en brancher le plus possible.
Un échéancier là-dessus?
Pour la fin, non, parce que il y a beaucoup d'embûches avec les propriétaires de poteaux sur lesquels il faut s'attacher, et c'est un des gros problèmes, des gros enjeux qu'on a eu de longueur de construction, c'est ça.
Quand vous parlez de propriétaires de poteaux, on parle d'Hydro et de Bell.
Exactement, c'est Hydro et Bell qui est devenu par la suite, quand le gouvernement, lors de la pandémie, a décidé de brancher partout au Québec, c'était bien avant ça que notre projet était réfléchi, ben là, ce qui a fait que Bell est allé dans s'est déployé avec des subventions gouvernementales. Donc, il y avait intérêt à nous mettre un petit peu les bâtons dans les roues, mais il y a quand même eu là, des belles avancées. Il y a aussi le territoire hein, qui est une problématique. À certains endroits, il faut aller en enfouissement. Donc,
moi, j'ai vu des municipalités qui étaient obligées de remplacer des poteaux en place de Bell ou à la place de quand le poteau est accroché un peu, il faisait payer la municipalité pour ça. Là.
Ouais, ben c'est l'entente que les propriétaires de poteaux ont avec ceux qui s'y accrochent. Donc, si tu t'accroches à un de ces poteaux-là, ben, t'es responsable de l'infrastructure. Donc, s'il y a des modifications à faire, s'il y a des réparations à faire sur le poteau avant de s'accrocher, il faut les faire. C'est quand même assez complexe. Puis, vous savez, là, la Matawinie, c'est grand. Pas à peu près. Donc, des poteaux, il y en a beaucoup. Donc, chaque poteau est une infrastructure en soi et il faut le gérer un par un. Donc, ça a été toute une aventure, mais on qui arrive à sa fin. Et maintenant, c'est le temps de s'abonner pour s'assurer de financer notre réseau.
Alors, vous avez un objectif en tête au niveau des abonnements?
Oui, on veut doubler le nombre d'abonnements parce que s'abonner à Connexion Matawinie, c'est pas juste choisir un service Internet, c'est aussi soutenir un projet collectif. Ce qu'on veut, c'est pas faire de surplus avec ça, mais c'est vraiment de payer l'infrastructure. Donc, on se dit qu'à peu près chacune des municipalités là, devrait doubler son nombre d'abonnés. J'invite chaque citoyen de la Matawinie à s'abonner à Internet, à Connexion Matawinie, propulsé par Cooptel. Vous n'avez qu'à faire le 1-800 Cooptel, puis vous pouvez, ou sur Internet, vous pouvez le trouver facilement et prendre rendez-vous pour vous brancher avec ce service Internet qui vous appartient.
Voilà, Michel Arnois qui s'entretenait hier avec Isabelle Perrault, la préfète de la MRC de la Matawinie. Connexion Matawinie qui offrira donc désormais un service fibre optique propulsé par Cooptel, une compagnie des cantons de l'Est. Je sais que Cooptel offre aussi un petit peu partout le service téléphonique, également service de télévision. Je ne sais pas si ce sera le cas en Haute-Matawinie, là, mais quand même intéressant. Voilà, c'est le temps de remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. François Morin, Pierre Jubinville, Mathieu Bélanger, Pierre Paquette, ainsi que Michel Arnois. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On sera là, nous, demain à 16h pour vous présenter une autre édition de l'Anaudière PM. Entre-temps, ben, manquez pas Nicolas Bellemare qui sera là de l'autre côté de l'actualité de 17h pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Salut, bonne soirée, à demain.